Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus Lorraine et sur l'ensemble des radios du réseau Radio Campus France. Vous écoutez l'émission Univox. Si Rabelais a dit un jour que la science sans conscience n'était que ruine de l'âme, la thèse sans synthèse n'est que l'incompréhension du travail du chercheur. Aujourd'hui, le thème de cette Univox est la science et avec vous en 1800 secondes. Vous l'aurez compris, dans les 1800 prochaines secondes de cette émission, nous allons partir à la recherche de la science et du travail du chercheur au programme La finale nationale de ma thèse en 180 secondes qui avait lieu ce mercredi 3 juin avec 27 thésards de toute la France et qui s'affrontaient pour présenter leur thèse en 3 minutes devant un public et un jury. Cet événement s'intégrait également dans un autre événement. Comme les poupées russes, c'est un événement d'envergure internationale qui avait lieu toute cette semaine au centre des congrès de Nancy. Il s'agit de Science NU, 3000 mètres carrés d'animation scientifique et gratuite et ouverte au grand public. Voilà pour le programme de cette émission. Pour m'accompagner, bien sûr, Maxime et Kassem, des spécialistes sciences à Radio Campus Lorraine. Salut.
Salut.
Alors, on va commencer tout de suite avec ma thèse en 180 secondes. Et pour vous mettre dans l'ambiance, eh ben voilà, ambiance.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Est-ce que ça va bien ?
Oui.
Ah, je sens que vous êtes chaud bouillant, vous allez être un public exceptionnel ce soir pour cette finale nationale de ma thèse en 180 secondes. Bienvenue à Nancy!
Et voilà, Nancy était donc le point chaud pour accueillir ces 27 thésards.
Plus que chaud, oui, il y avait 800 personnes et c'était sympa de voir autant de gens motivés pour des tests, tout simplement.
800 personnes dans le public pour voir 27 thésards présenter leur thèse en moins de 3 minutes, puisque c'est le concept. C'est un concept qui est porté conjointement par la CPU, la Conférence des Présidents d'Université, et le CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique. 27 candidats, chacun était lauréat de sa région ou de son groupement d'université, et ils devaient donc ce soir-là défendre leur thèse dans un laps de temps très court, tout juste 3 minutes. Joanne Furidelli, directrice de la communication de la Conférence des présidents d'université, nous explique au micro de Maxime Laffey les objectifs de ce concours.
Eh bien, le but, c'est de donner l'opportunité à des jeunes doctorants, qui sont souvent en début de thèse, de raconter, comme on vient de le voir ce soir, dans des termes très simples, les plus accessibles possibles, leur recherche avec des mots que tout le monde peut comprendre. Et ils le disent souvent d'ailleurs, la thèse en 180 secondes me permet de briller en famille. Je sais enfin raconter ce que je fais pendant toutes ces journées.
Ok, donc pour eux, pour leur famille, donc c'est plus pratique apparemment. Et vous pensez que pour leur construction de leur thèse, ça leur aide ou pas?
Oui, je pense que, et on le sait d'ailleurs, oui bien sûr, ils le disent, ça donne confiance en moi, ça permet certainement de structurer un propos et de les aider dans le cheminement de ce début, voire de ce milieu de thèse.
Et si certains participent à ce concours sur les seules bases de leur travail et de leur talent, durant la phase de préparation, d'autres se sont même fait accompagner. Certains ont pris des cours auprès de comédiens et d'autres ont bénéficié d'un coaching particulier. Ces 3 minutes sont l'objet d'une véritable performance, un one-man show scientifique où l'humour est un ingrédient essentiel. L'un des candidats, Paul-Étienne Kaufmann, finaliste de Normandie Université, a accepté de se prêter à cet exercice et de vous le présenter en direct et en live pour Univox et pour Radio Campus Lorraine.
Bonsoir tout le monde. Pour ma part, je fais des recherches en légistique. La légistique, c'est une matière assez ancienne. Montesquieu, déjà, dans son ouvrage de l'Esprit des Lois, étudier la légistique. Il disait « les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires ». La légistique est une matière tellement importante que si vous ouvrez un dictionnaire, vous ne trouverez pas ce terme à l'intérieur. Si vous suivez un petit peu l'actualité, vous avez pu voir que cette année encore, on a fait rentrer de nouveaux mots dans le dictionnaire. Je pense à « bœuf », « bolos ». Par malheur, la légistique n'y figure toujours pas. C'est vous dire l'importance qu'on accorde à la matière sur laquelle je travaille. La légistique, c'est l'art ou la science de rédiger la loi et de correctement rédiger la loi. Ma thèse est une succession de propositions qui permettraient, si elles étaient appliquées, d'améliorer la qualité de la loi, de réduire le volume normatif et de réduire le nombre de lois tout simplement. Tout ça dans un but d'intérêt général pour que le citoyen puisse comprendre ses droits et ses obligations. Ce soir, je n'ai retiré de ma thèse que deux exemples qui me semblent absolument frappants pour vous faire comprendre l'importance de travailler sur l'amélioration de la qualité de la loi. Le premier exemple, la première proposition, c'est la formation des députés. Partez d'un principe simple. Imaginez Didier. Didier vit à la campagne. Didier se présente et devient maire de sa commune. Magnifique. Et après quelques années, on vient voir Didier, on lui dit « ce serait vachement bien que tu deviennes député ». Didier se fait élire député. Magnifique, bravo. Et il se retrouve du jour au lendemain assis sur les bancs de l'Assemblée nationale. Et là, on lui dit « Didier, maintenant, c'est toi qui écris les lois ». Je suis désolé, moi je ne suis pas médecin, je ne soigne personne. Eh bien comment est-ce qu'un homme ou une femme qui n'est pas juriste pourrait rédiger correctement une loi? Ça n'a aucun sens. Donc ma première proposition, c'est la formation des députés. Si vous changez de travail et que vous changez de mission, vous devez vous former à votre nouvelle mission. Le deuxième point, c'est la création d'une commission de légistique. C'est une commission qui sera au centre de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les députés et les sénateurs viendront la voir en disant « voilà, j'ai une volonté politique, voilà ce que je désire ». Et les membres de la commission de légistique, les légisticiens, moi par exemple, nous aurons pour tâche de vérifier qu'il n'y a pas de doublons, qu'il n'y a pas de contradiction, que cette loi est nécessaire, et aussi vérifier que c'est bien nécessaire de devoir prendre cette loi. Tout ça pour vous faire gagner du temps, pour vous faire gagner de l'argent, pour que vous ne soyez pas obligé d'aller voir un avocat pour pouvoir comprendre vos droits et vos obligations. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi, mais j'ai envie de répondre à l'impossible, nul n'est tenu. Je voudrais terminer en citant mon philosophe préféré, Daniel Balavoine, qui, dans sa grande sagesse, disait « Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. » Merci.
180 secondes et pas une seule de plus, l'exercice en one shot enregistré par toi, hein, Maxime.
Oui, oui, c'était parfait, je voyais ça, les secondes qui s'égrenaient et à chaque fois c'était sur le gong pour les candidats actuels. Et je voudrais faire remarquer que là on n'a pas du tout une thèse scientifique, au contraire ça nous parle de loi, on a vu des thèses qui parlent de racisme, l'une des lauréates, et
de racisme et même de philosophie. C'est qui a gagné,
ouais. Ouais, et on a aussi une thésarde qui parle de philosophie, de religion. Donc, nous, scientifiques de base, on était assez étonnés. Et, du coup, il fallait un peu s'accrocher pour des domaines que nous ne connaissions pas. Mais pour les domaines où nous connaissions, c'était assez intéressant, mais très, très vulgarisé.
C'est finalement Alexandre Artaud, finaliste de l'université de Grenoble-Alpes, qui a remporté les faveurs du public, a priori, sur un sujet des plus inaccessibles, la spectroscopie tunnel à très basse température de graphène sur rhénium supraconducteur. Le doctorant a également reçu les faveurs du jury, puisque c'est lui également qui remporte cette première édition.
Ah oui, il a fait un one-man show, c'était vraiment impressionnant pour nous parler en fait de mécanique quantique, et c'est marrant parce qu'il a utilisé en fait des images, il a parlé que les électrons ça peut être des couples mais qui sont des fois schizophrènes, et après est parti avec beaucoup de références avec le côté dark côté ou le bon côté, et il a vraiment eu la ferveur du public.
Joanne Furidelli pour la CPU et Brigitte Perruca, de la directrice de la communication pour le CNRS, nous livrent leur regard sur la prestation du gagnant pour cette deuxième édition.
Ce concours n'est pas très ancien, hein. Il a 2 ans, peut-être à peine plus. En fait, je crois qu'il y a une logique de coup de cœur qui s'installe, et Alexandre Artaud en a complètement bénéficié, et je ne suis pas très étonnée que le prix du public corresponde au prix du jury. On l'a tous senti dans la salle quand il a fait sa prestation.
Ouais, tout à fait d'accord. Moi, j'avais plein de chouchous, mais c'est vrai que, voilà.
C'est un peu la course en tête. Hein.
Ouais, on l'a senti tout de suite, comme on l'avait senti l'année dernière pour la lauréate. C'est une transmission qui est très directe vers le public et une réelle capacité à s'affranchir et à donner beaucoup.
Et je crois, avec un autre élément, c'est à faire rire, hein, qui n'est pas négligeable. Je crois que quand on met les rieurs de son côté, c'est fort aussi.
Oui.
Quand on est capable
sur
de
un sujet
rire,
pas sur forcément sujet très drôle. Hein.
Pour l'accompagner, bien, c'est tout simplement, les deuxième et troisième prix ont été attribués à Rachida Brahim de Aix-Marseille pour sa thèse sur les crimes racistes et la racialisation. Et enfin, pour Grégory Passini, finaliste de Sorbonne Paris Cité, sur la thématique du rôle EHD4 dans la régulation du facteur de la restriction du VIH1.
Oui, c'était pas facile à dire, mais là aussi je tiens à remarquer sa présence parce qu'il avait réussi à vulgariser le VIH, son modèle de propagation de manière assez intéressante. Il a dit que le défense immunitaire c'était comme un campus et que du coup le VIH c'était un squatter qui s'incrustait dans les cellules qui étaient en fait les chambres de campus. Et vraiment, j'ai apprécié sa façon de voir les choses, pour au moins vulgariser comme il se doit.
Et on voit très bien que les trois qui ont gagné ont de différents domaines. Quelques sont scientifiques et les autres sont littéraires. Et ça, que ce qui a donné une grande richesse à la compétition.
Oui, bah, comme on a dit, ça avait vraiment des thèmes pas scientifiques et qui nous ont un peu surpris au début parce qu'on s'attendait vraiment à, on savait, moi, personnellement, je suis encore loin de la thèse et je ne savais pas qu'il pouvait y avoir des thèses sur la sociologie, l'histoire et etc. Et je trouvais ça assez riche et mais il fallait quand même s'accrocher pour savoir un peu quel était leur travail dans ce domaine-là en question et, mais la vulgarisation introduire le domaine en question est assez intéressante.
Les trois lauréats aux trois premières places auront à défendre les couleurs de la recherche française lors de la finale internationale de ma thèse en 180 secondes qui aura lieu le 1er octobre prochain à Paris, la Sorbonne. Ils devront donc de nouveau présenter leur thèse en 3 minutes et pas une seule seconde de plus. Ils affronteront d'autres doctorants issus de 8 pays francophones.
L'année dernière, la finale internationale avait eu lieu à Montréal. On avait 4 pays francophones qui participaient. Cette année, on en a 8. Et c'est la France qui a gagné l'année dernière, qui accueillera cette année cette grande finale. Donc plus on monte les marches du podium, plus on a de visibilité, d'attractivité, d'opportunité. Et puis personnellement, pour eux, je pense que c'est très très fort d'aller en finale internationale. Ils auront l'occasion de rencontrer des doctorants camerounais, sénégalais, belges, burkinabés.
Combien de nationalités du coup sont représentées ?
8 pays seront représentés et c'est l'entrée en force de l'Afrique cette année. Donc on est très très contents de faire des émules et chaque année d'avoir de plus en plus de pays qui souhaitent s'associer au concours.
Ma thèse en 180 secondes promet déjà de revenir l'année prochaine avec plus de candidats, plus d'universités partenaires, mais avec un format de présentation de thèse toujours aussi court. Les candidats n'auront toujours que 3 minutes pour convaincre et expliquer leur thèse au grand public. Maxime et Kassem, vous qui avez participé à cet événement, vous qui avez suivi cet événement de A à Z, vous qui êtes passionné de sciences mais pas en thèse, vous en avez pensé quoi de cet événement ?
Bah, nous, on connaît un peu les côtés techniques dont il parlait. Donc, la vulgarisation, c'était sympa parce qu'on pouvait voir un autre côté. On pouvait voir comment on peut interpréter certains phénomènes et comment surtout on peut les imager. Après, concernant le contenu de la thèse, je trouvais le contenu des 180 secondes, je trouvais ça intéressant. Cependant, je trouvais qu'on remarquait moins le travail qu'ils ont effectué pendant leur thèse ou non. Mais après, je pense que l'explication du domaine est avant tout le truc à privilégier parce que c'est le côté technique et à expliquer en fait.
En plus, la difficulté c'était de présenter un travail de 3 ans dans 3 minutes seulement. Elle était très intéressant et elle aide les candidats à synthétiser, à résumer leurs travaux dans ces 180 secondes.
Et surtout que la proportion en fait de bibliographie qu'on doit faire lors d'une thèse est en fait celle qui a résumé pendant les 180 secondes, parce que pour les 180 secondes, il y avait environ 140 d'introduction du sujet, donc toute la partie bibliographique est fastidieuse d'un thésard, et ensuite les 40 secondes, c'était plutôt ce qu'ils ont fait eux personnellement, et c'est vraiment un truc très très pointu, difficile à vulgariser, et je trouve que c'était assez quand même révélateur de ce qui se passe réellement dans une thèse.
Merci messieurs, on vous retrouve bien sûr en deuxième partie d'émission pour parler de Science and You, que vous avez également couvert, et c'est la fin d'ailleurs de cette première partie sur la vulgarisation de la recherche scientifique avec ma thèse en 180 secondes, et d'ailleurs dans 180 secondes nous partirons à la découverte justement de Science and You qui avait lieu en même temps que ma thèse en 180 secondes, puisque ma thèse en 180 secondes était intégrée à cet événement. En attendant, on fait une petite pause musicale, on écoute Kanka avec Anesthesia. Rendez-vous donc dans 180 secondes pour la suite de ce programme Univox. Univox.
Univox.
De retour sur Univox, une émission portée par les radios du réseau Radio Campus France. Cette semaine, on parle de vulgarisation de la recherche scientifique auprès du grand public. Et dans cette deuxième partie, nous allons évoquer l'événement de portée internationale, le Science and You, qui avait lieu toute cette semaine au Palais des Congrès de Nancy. Au programme, 3000 mètres carrés d'animation, des expositions, des démonstrations, des colloques, des conférences, le tout ouvert au grand public et gratuitement. À noter qu'il y avait près de 1000 participants au cours de la semaine en provenance de plus de 60 pays. Le grand public a ainsi pu découvrir 80 organismes scientifiques exposants, 70 stands, 7 expositions et pas moins de 8 spectacles scientifiques organisés au cours de la semaine. Nicolas Beck, responsable de l'équipe de culture scientifique et technique de l'Université de Lorraine, organisateur de l'événement Science and You, nous explique ce que le grand public a pu retrouver sur ces, justement, 3000 mètres carrés d'exposition.
Alors au forum, on a voulu montrer un petit peu un panorama des sciences. Donc il n'y a pas une seule discipline, il n'y a pas que de la physique, il n'y a pas que de la biologie ou que de l'histoire. Il y a vraiment toute une série de thématiques dans tous les domaines. Donc on parle un peu de tout, un peu de tous les sujets. Donc chacun peut y trouver vraiment un intérêt. C'est fait pour les curieux, c'est fait pour les petits, pour les grands. Il y a des jeux, il y a des expositions, il y a des expériences interactives, il y a des lunettes 3D, il y a des expos interactives. Le but, c'est vraiment qu'on passe un bon moment en famille, par exemple, ou en classe, parce qu'il y a pas mal de scolaires qui vont venir. Et l'idée, c'est qu'on fasse de la science en s'amusant, finalement. C'est une grande fête de la science. Donc, à travers ça, on crée aussi des moments de rencontre, de dialogue avec les chercheurs. Et c'est ce qui fait que le public ressort généralement ravi de ce genre de moment, parce qu'on n'a pas l'occasion souvent de voir des chercheurs.
Si toute une partie était ouverte au grand public, le regroupement d'autant de scientifiques était également l'occasion de l'organisation d'un colloque autour de la communication des sciences. Nicolas Beck nous dévoile les objectifs de ce temps d'échange entre public, politique et chercheurs.
L'idée, c'est de faire réfléchir ensemble chercheurs, doctorants, entreprises, citoyens, sur justement comment s'emparer un petit peu des questions scientifiques qui sont des questions de société aujourd'hui. Quand on parle, par exemple, tout simplement du changement climatique, bah derrière, il y a évidemment des questions scientifiques, il y a des questions que les climatologues peuvent essayer de résoudre, il y a des problèmes de physique, il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes géopolitiques. C'est beaucoup plus complexe qu'on imagine. Alors quand on traite ce genre de sujet, l'intérêt, c'est justement de s'emparer de ces questions ensemble pour essayer de résoudre ces problèmes ou ces problèmes potentiels qui pourraient se poser. Alors ça, c'est qu'un exemple. Si on parle aussi du numérique, si on parle de ce qui est sécurité sur Internet, par exemple, on peut imaginer comme ça des dizaines de sujets qui sont des sujets que les uns et les autres essaient de résoudre chacun à leur façon. Et Science and You, c'est l'idée de créer une interface entre tous ces gens qui réfléchissent à ces questions pour justement faire avancer les choses.
Fait qu'ils trouvent un point commun et qu'ils ont un bon entendement et qu'ils avancent vers ceci.
Tout à fait, et le but, c'est aussi d'associer le public à cette réflexion.
D'accord.
Parce que finalement, tout ça, c'est pour qui? C'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour nous en tant que citoyens. Donc le public est concerné, le public a aussi son mot à dire. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est aussi de mêler le public à ces discussions. Donc à travers le forum, on essaye de le faire pour faire prendre conscience aux chercheurs que l'avis du public est important, pour faire prendre conscience au public que le travail des chercheurs est fait aussi en connexion avec la société.
Parmi les 3000 mètres carrés dédiés à la science, nous avons été à la découverte d'un exposant autour de la réalité virtuelle, Maxime.
Oui, donc on y était allé, on s'est amusé. En fait, on arrivait, donc c'était deux écrans pour que les spectateurs à côté voient ce qui se passe. Donc c'était assez flou, donc il y avait des gens qui... Il y avait une personne qui marchait, donc on a demandé d'essayer. Donc on était assis avec des lunettes de 20 cm d'épaisseur. Donc sur les yeux, donc opaque, et à l'intérieur, donc on voyait donc nous marcher avec certaines viseurs. En fait, on remplaçait le mouvement de notre tête remplaçait le mouvement d'un joystick, et c'était assez intéressant parce que du coup, on pouvait savoir se diriger en fonction de d'où se positionnait notre tête. Donc c'est pour ça qu'on avait une chaise qui pouvait être tournée, quoi, et pour un peu décider de l'endroit où on devait aller.
Et justement, vous avez eu droit à même une visite guidée avec Dez Mireille, concepteur du jeu, qui peut même avoir des retentissements dans de nombreux domaines en dehors du jeu vidéo. On l'écoute tout de suite.
Alors en fait, c'est un projet qui démarre, c'est important de le dire, c'est la Vigie de l'eau, le musée, qui a beaucoup d'activités qui sont autour de l'eau, qui font découvrir tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui concerne l'eau, tout ce qui concerne l'écologie autour de l'eau, qui nous a commandé ce projet en disant... On va essayer d'intéresser les enfants, les jeunes, autrement, à travers une application immersive. Donc, dans ce cadre-là, nous, on parle d'application immersive. Pourquoi ? Parce qu'on est en immersion dans un jeu. Parce que on est coupé du monde réel, on est dans un monde virtuel, mais on n'a plus de repères dans la réalité. Et c'est le monde qui est virtuel qui devient sa propre réalité. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là qu'on est dans la réalité virtuelle. Mais en fait, on est, le mot le plus juste pour nous, c'est application immersive. Okay. Parce que ça nous permet de rentrer en immersion dans un nouveau monde, ou un monde qui existe, ou un monde irréel, mais c'est un autre monde. Et alors ce que vous avez essayé, c'est la version développeur. C'est pour ça que vous avez dit grosse lunette. Bon, parce qu'on est encore dans des versions dev, mais, oui, mais quand on sera dans des versions grand public, c'est-à-dire en 2016, on aura des lunettes beaucoup plus fines, plus sans fil, fines, etc., avec le son intégré. Donc c'est pour ça que c'est un peu comme ça énorme, parce que c'est un prototype.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu simplement comment ça fonctionne ?
Alors le fonctionnement, c'est quand on développe un jeu vidéo, on place une caméra. Voilà. Cette caméra est déterminante, c'est ce qu'on appelle, on a construit ça autour d'un personnage, un first person contrôleur, c'est-à-dire une vue à la première personne, ou soit autour d'un third person contrôleur, etc. Dans Oculus, on a deux caméras, et contrairement à ce qui se passe d'habitude, on n'est plus un écran en face, mais on peut se diriger à l'intérieur du jeu. On n'est plus avec... voilà. Et on a mélangé donc une vue à la première personne avec un avatar, ce qui fait qu'on a les deux types de vision, mais on peut se voir dans le jeu. Donc ça, c'est pour la partie. Ensuite, Oculus, c'est ni plus ni moins un téléphone portable avec deux optiques, en fait. Voilà, deux optiques. Et du coup, on travaille là-dessus parce que en prenant des lunettes à 5€ en carton ou à 200€ en plastique sophistiqué, on glisse son smartphone à l'intérieur, on met une petite manette, voire en Bluetooth, et on peut jouer chez soi à un genre d'Oculus, quoi. C'est-à-dire quelque chose d'immersif. Ça, c'est un avenir qui est proche. Ça va permettre de patienter. Alors, la différence, c'est la qualité d'Oculus. Mais sur des solutions comme ça, il y a du monde qui arrive. Nous, de toute façon, on n'est pas axé sur un type d'utilisation. C'est le monde virtuel qui nous intéresse.
Allez, la suite pour vous.
Alors, la suite pour ce jeu à proprement dit, c'est de faire un kit de survie. C'est-à-dire que ça, c'est la première étape, parce qu'on a maîtrisé le concept d'Oculus, les déplacements, toutes ces choses-là. Maintenant, on part plus dans l'interactivité, et là, on va créer un kit de survie. C'est-à-dire qu'on est dans la nature, il faut qu'on apprenne à survivre au milieu de la nature, chasser, pêcher, manger, trouver des outils, tout ça. Ce qui va nous arriver bientôt. Donc c'est un avenir pour
nous.
Voilà. Et on travaille aussi sur un simulateur de diabète qu'on a présenté déjà à Lausanne, où on simule la maladie et on a modélisé un peu tous les symptômes et tous les malaises. Et c'est-à-dire qu'on revit un peu ce que ressent un diabétique, où un diabétique peut apprendre à se soigner un peu mieux grâce à ce jeu. Donc il y a des applications médicales, il y a des applications ludiques, un peu comme ça, pour découvrir la nature. Il y a d'autres choses, en fait. Ce qui est intéressant, par contre, là, on travaille, par exemple, nous, sur des applications de sécurité. On est dans un immeuble qui prend feu, il y a de la fumée, il y a du bruit, tout. Il faut évacuer l'immeuble, il faut penser à prévenir les gens, il faut trouver les bonnes sorties, il faut faire les choses, et il faut appeler les secours, etc. Donc ça, c'est des choses intéressantes.
Alors vous qui avez participé un petit peu plus à l'ensemble de cet événement de Science & You, vous avez fait un petit tour, qu'est-ce que vous avez pensé et est-ce que véritablement ça vulgarise correctement la recherche des scientifiques ?
Déjà, je voulais d'abord signaler que ce point de vulgarisation de science, c'est vraiment un point qui me tient à cœur parce que je trouve que depuis le collège, le lycée, on nous bassine comme quoi les maths c'est difficile alors qu'en fait c'est accessible pour tous et il y a des retombées phénoménales. Ensuite, donc nous on a vu de la robotique, c'était assez intéressant, donc on s'y connaît un petit peu de voir un peu les fonctionnements et les applications qui peuvent se faire. Oui, tout est en fait là le thème principal du colloque, c'est vraiment la communication. Des applications, mais vraiment c'est quelque chose de primordial ces temps-ci et il faut faire comprendre au grand public que on est trop nombreux sur Terre mais on a besoin de la science pour faire en sorte que ça se passe bien et qu'on s'en sorte tous et là vraiment on a besoin que tout le monde comprenne en fait.
Et comme l'explique Nicolas Beck, organisateur de l'événement pour l'Université de Lorraine, ce n'est qu'un point de départ puisque c'est vraiment une pierre angulaire qui est de faire communiquer auprès du grand public les scientifiques pour faire comprendre un petit peu tous les enjeux. Ce n'est qu'un point de départ et comme il le dit très bien, ça risque de continuer.
Le but c'est de capitaliser sur cet événement pour continuer à travailler avec l'ensemble des acteurs qui ont été mobilisés pour donner d'autres rendez-vous au public dans les mois et les années à venir afin de continuer à se mobiliser sur ces questions qui sont vraiment des enjeux de société aujourd'hui.
Okay, du coup, rendez-vous dans combien d'années ?
Il n'y aura pas forcément un rendez-vous l'année prochaine ou l'année suivante. Le but c'est plutôt de faire des événements plus régulier et moins gros pour donner, pour toucher davantage de public aussi.
Comme on dit dans les séries, to be continued.
To be continued, c'est la fin de cette émission d'Univox. Merci à Kassem, Ahmad, Emilien et Maxime pour avoir contribué à l'élaboration des contenus. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Univox porté par une autre radio du réseau Radio Campus France. On se dit donc au revoir et à bientôt sur Radio Campus France.